Bonjour à tous, vous écoutez les Pipelettes. Au micro, Miyako, Louise et moi Laure. Aujourd'hui, nous allons vous raconter trois faits méconnus qui se sont déroulés un 22 novembre.
Miyako nous dira tout sur l'album blanc des Beatles sorti en 1968. Laure vous parlera de Barbe Noire, le célèbre pirate qui est mort le 22 novembre 1718. Et je finirai par l'assassinat de Kennedy en 1963.
Très beau programme. Les Pipelettes, c'est tout de suite.
C'est Miyako qui débute avec la sortie du double album blanc « Why Don't We Do It In The Road » des Beatles.
Eh oui, le 22 novembre 1968, c'est la sortie de l'album blanc, « The White Album », ou même encore « The Beatles ». C'est l'un des albums les plus complexes de ce groupe. Il est connu pour sa pochette très célèbre, toute blanche, avec écrit « The Beatles ».
Miyako, avant de nous parler de cet album, peux-tu nous présenter les musiciens qui constituent ce groupe de pop si connu ?
Oui, bien évidemment, Louise. Ce quatuor musical, tout droit venu de Liverpool, en Angleterre, est composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et de Ringo Starr. D'ailleurs, Ringo Starr sera le dernier à intégrer cette bande qui restera ainsi jusqu'à la mort de Lennon en 1980. Bon, revenons à nos moutons. Cet album, composé de 30 chansons, sera la troisième meilleure vente d'albums du groupe, après Sgt. Pepper et Abbey Road. Il existe plusieurs versions qui expliquent le pourquoi du comment cette pochette est toute blanche. D'une part, nous retrouvons une légende, et celle-ci veut que John Lennon ait demandé à mettre une photo osée de lui et sa nouvelle femme Yoko Ono, et dit « c'est ça ou rien », et finalement, rien ne se passa. Mais bon, la vraie version et la plus réaliste est que Paul McCartney ait imaginé la pochette comme un collage de photos des musiciens jeunes. Par manque de temps, ce projet est finalement inclus sous forme de poster en pièce jointe de l'album. Et petite info bonus, la pochette est tamponnée d'un numéro de série, comme s'il s'agissait d'un tirage limité. Voilà pourquoi, aujourd'hui, cet album est si rare et si coûteux. Sinon, d'autre part, l'album blanc est aussi considéré comme une des plus grosses fissures chez les Beatles. La première grosse erreur était le faux pas de Lennon sur la religion et l'arrêt des tournées. Ensuite, vient la mort de Brian Epstein, leur manager, depuis leur début. Et la goutte qui fait déborder le vase est l'omniprésence de la nouvelle âme sœur de Lennon durant les sessions d'enregistrement, Yoko Ono. Mais John Lennon a encore des problèmes avec le divorce de sa première femme et tombe sous l'emprise de la pire des drogues, l'héroïne. Ensuite vient encore un énorme problème. La compagnie que les Beatles ont créée, Apple, est mal gérée et devient un gouffre financier. En somme, une succession de problèmes, et le public le sent. C'est peut-être bientôt la fin de ce groupe. Voici Glass Onion, sorti le 22 novembre 1968. C'est la première chanson où Ringo Starr apparaît à la batterie. Let's go!
Et qu'en est-il des titres de cet album ?
Des chansons écrites pour cet album représentent ce que chacun fera dans leur carrière en solo. En effet, John Lennon écrit des chansons d'avant-garde, telles que Revolution 9, ou des morceaux très politiques, comme Revolution 1, ou même un morceau très ironique et provocateur, tel que Glass Onion. George Harrison prend de l'assurance et compose de magnifiques chansons. On peut penser à While My Guitar Gently Weeps, ou Peggy's. Paul McCartney écrit différents types de chansons et Ringo Starr n'en compose qu'une et ce sera sa première, Don't Pass Me By. Même s'il reste encore plein de choses intéressantes à dire au sujet des Beatles, je vous laisse avec While My Guitar Gently Weeps. Selon moi, c'est un des chefs-d'œuvre de cet album.
the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning.
C'est au tour de Laure de nous raconter l'histoire de Barbe Noire.
Merci Louise. Le 22 novembre 1718, quelque part dans l'Atlantique Nord, éclate la bataille navale et arrive au nom des pirates la mort d'un certain Edward Teach. Et cet Edward Teach était né 40 ans plus tôt à Bristol en Angleterre et s'était acquis la célébrité sous le surnom de Barbe Noire.
His name was Teach when he came to Carolina. Like a man possessed, he scoured the sea.
And the devil called him son.
Teach, the demon of the sea. Run, you sailors, run. With a beard of flame and a heart of ice. Blackbeard, the devil's son. He shot his first mate in the hold one day. He said, I don't give a damn. If I don't kill someone now and then, you'll forget who I am. Married a girl of 15 years named Liza. From across the town they heard her scream
as he took her maiden head. Blackbeard Teach, the demon of the sea. Run, you sailors, run. With a beard of flame and a heart of ice. Blackbeard, the devil's son.
Ce célèbre pirate qui a terrorisé les côtes américaines pendant plusieurs années naviguait à bord d'une frégate de 40 canons enlevée aux Français lors d'une de ses attaques. Et ce géant, doté d'un impressionnant système pileux, effrayait ses adversaires en allumant des mèches de chanvre dans ses cheveux, ce qui lui a valu le célèbre surnom de Barbe Noire. Pendant la guerre de succession d'Espagne, il a combattu au service de l'Angleterre en tant que corsaire. Il attaquait et pillait tous les navires qui passaient d'une nation rivale de la sienne. Mais, en échange, il devait partager le butin avec la couronne. Puis, un jour, il décida d'arrêter de faire la différence entre les navires ennemis et les navires anglais et devint pirate et non plus corsaire en attaquant les flottes anglaises et risquant le châtiment de la pendaison. Mais après que Barbe Noire eut osé bloquer le port de Charleston en Virginie, les habitants de la colonie, excédés, décidèrent d'en finir avec lui et lancèrent à sa poursuite le lieutenant Robert Magnard, capitaine de la HMS Pearl. Le pirate périt donc au terme d'un combat titanesque. Je vous laisse avec Angeles Alpha Systol de Gabriel Garrido, composé en 1718. Finissons par Louise qui va nous en dire un peu plus sur Kennedy.
Le 22 novembre 1963, des coups de feu retentissent dans le centre de Dallas. Le président Kennedy, qui défile aux côtés de son épouse Jackie dans sa décapotable, est touché par deux balles. D'abord à la gorge, puis à la tête. Il meurt 2 heures plus tard à l'hôpital. ces funérailles nationales sont retransmises dans le monde entier et cet assassinat reste encore aujourd'hui un des grands mystères du XXe siècle, car on ne saura jamais qui a commandité le meurtre.
I'm leaving it all up to you.
John Kennedy avait remporté en 1960 les élections présidentielles, devenant ainsi le plus jeune président des États-Unis à 43 ans seulement. Il incarne alors le renouveau du pays grâce à son charisme, sa popularité et son programme dynamique et moderne. Au cœur de la guerre froide, le président prône une coexistence pacifique, mais gère avec brio les tensions qui persistent, bien que la crise des missiles de Cuba manque de déclencher la guerre nucléaire. Ses discours sont célèbres. On retiendra bien sûr l'annonce de la conquête de la Lune, où on va, non pas parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile. Ou de son fameux « Ich bin ein Berliner » pour soutenir Berlin, alors sous embargo russe. Il soutient la lutte pour les droits civiques et propose des lois anti-ségrégation au Congrès. Comme le président Kennedy ne fait pas l'unanimité, il démarre sa campagne de réélection dans les États qui lui sont particulièrement hostiles, en commençant par Dallas. On connaît la suite. Et maintenant, Blue Skies par Frank Sinatra, qui était la chanson préférée de Kennedy.
Never saw the sun shining so bright. Never saw things looking so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies. From now on,
les filles, il faut y aller.
Et oui, c'est déjà la fin de notre émission.
Mais ne vous inquiétez pas, car nous serons bientôt de retour pour des faits passés un 20 décembre.
En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site www.radio-lfb.net. Laissez des commentaires, abonnez-vous et téléchargez notre programme.
On vous laisse avec L'Exil par Laurie Darmon.
Au revoir et bonne semaine.
De quel Orient nous parle-t-elle ? La jolie dame au souvenir, quand elle raconte sa jeunesse sur le vieux port d'Alexandrie, elle était une jeune fille sage, tandis que ses amis dansaient à chaque bal sur chaque plage, où tout ensemble elle se rendait. Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil. De quel Orient nous parle-t-elle quand elle évoque ses grossesses, quatre bonbons providentiels élevés presque à l'aveuglette. Ses yeux bleu vert n'ont pas encore quitté l'Égypte de sa vie. C'est à jamais là-bas que dort la paix dont elle se nourrit. Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'intérêt. l'insouciance comme un fruit que poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil. De quel Orient nous parle-t-elle?
Quel Orient nous parle-t-elle?
La jolie dame au souvenir,
la jolie dame au souvenir,
qui a dû pardonner au ciel de la forcer à reconstruire, loin sur un autre continent,
loin sur un autre continent,
les rituels qu'on met des années,
qu'on met des années
à adopter, oui, mais pourtant, ce fut le prix de sa liberté. Les photos ont vieilli, le noir et blanc s'épuise, mais son air oriental est demeuré intact. Je la regarde si belle, petite et mystérieuse, elle est la mère de ma mère, elle est mon enfance heureuse. Son accent comme un cri témoigne au temps qui passe qu'aucun de ses vestiges ne quittera son âme. Sa nostalgie m'enseigne qu'il n'est pas une frontière, l'exil.